Bonjour Hervé Gattegno.
Bonjour.
Dans la presse ce matin, honneur aux femmes.
Pour le meilleur et pour le pire, elles sont à l'honneur d'abord avec le vote du Sénat hier, on vient de le dire, pour que la Constitution garantisse le droit à l'IVG. Le Sénat ouvre la voie, constate le Figaro, puisque le Congrès se réunira lundi. Vote historique, savoure Libération. C'est un message fort envoyé aux féministes du monde entier, dit aux Parisiens la présidente du planning familial. D'autres femmes en une de l'équipe, ce sont les footballeuses françaises, avec leur maillot bleu pâle et ce titre, la gloire attendra car elles ont perdu en finale de la Ligue des Nations, mais elles sont tout de même montées très haut. Et encore une femme en une du Figaro, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, allemande, puissante, un peu autocratique et très critiquée, mais favorite à sa propre succession à Bruxelles en juin.
Et en première page des Échos, les femmes aussi, aux avant-postes dans les entreprises où l'égalité continue de progresser.
Le journal publie en exclusivité le baromètre de l'Institut Equilip, qui mesure le niveau d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les plus grandes entreprises, selon des critères qui vont de la répartition des postes par genre aux politiques salariales et aux politiques de lutte contre le harcèlement sexuel. Sur 27 pays examinés, la France se classe au premier rang, leader incontesté pour la féminisation des conseils d'administration, par exemple. C'est l'effet de plusieurs lois contraignantes, écrivent les Échos. Néanmoins, la France fait moins bien que les pays nordiques pour ce qui est de la présence des femmes dans les comités exécutifs. C'est 27% en France de femmes et c'est plus de 30% en Suède. Donc, il n'y a pas tant d'écart que cela. Mais il n'y a que 7 femmes PDG dans les 120 plus grandes entreprises françaises.
Est-ce que c'est aussi une façon d'être du côté des femmes? Le Parisien consacre sa une à une enquête sur le psychanalyste Gérard Miller, accusé de viol ou d'agression sexuelle par plusieurs plaignantes.
Ce psychanalyste très médiatique et très politique, Gérard Miller, est donc visé depuis 2 semaines par de nombreuses révélations et accusations, notamment dans le magazine Elle et le site Mediapart, plus une émission ce soir dans Envoyé spécial sur France 2. Et il est visé aussi par 6 plaintes, selon Le Parisien. Des femmes décrivent en termes similaires des jeux de séduction et des séances d'hypnose à domicile qui se seraient mal terminées. Le Parisien brosse le portrait de Gérard Miller en homme de réseau et de culot, omniprésent dans les médias et volontiers donneur de leçons, ce qui ne le rend pas moins présumé innocent qu'un autre, disons-le tout de même. Dans les coulisses d'une émission où Gérard Miller avait ses habitudes, il distribuait son adresse mail à de jeunes femmes qui le surnommaient « Monsieur, tu as quel âge ?» parce qu'il les abordait toutes de la même façon.
Et dans le même journal, Le Parisien...
Ça vous laisse sans voix.
Ah, le tu à quel âge? Il est ambigu, parce que c'est à la fois une précaution pour ne s'adresser qu'à des majeurs, et en même temps, c'est assez...
révélateur.
Voilà. Dans le même journal, Le Parisien, l'actrice Juliette Binoche évoque elle aussi les comportements déplacés dans le monde du cinéma dont on parle tant en ce moment.
J'en ai vu des vertes et des pas mûres, confie Juliette Binoche, mais le ton qu'elle emploie, sans ambiguïté mais sans pathos excessif, tranche avec le discours victimaire habituel. Elle raconte avoir dû tourner très jeune des scènes de nus difficiles. J'avais 18 ans, mais je savais, grâce à mon caractère et mon éducation, où était la limite du oui et du non. Très vite, j'ai su qu'on ne pouvait pas laisser l'art être manipulé. Si on est confronté à une tentative, l'introduction d'une main ou de pensées malsaines, il faut tout de suite remettre les choses en place. Juliette Binoche est aussi en couverture de Vanity Fair. L'actrice aux 80 films a refusé de tourner dans Jurassic Park, apprend mais elle a dit oui pour Godzilla, c'était pour faire plaisir à son fils. Elle dément la légende selon laquelle Bill Clinton aurait tenté de la séduire, mais figurez-vous qu'elle est moins catégorique s'agissant de François Mitterrand. Je ne vous en dis pas plus, c'est sa vie privée.
Oh, oh, rien à voir avec ce qui précède. Le Premier ministre Gabriel Attal s'intéresse beaucoup à un sondage publié dans l'Humanité. De quoi s'agit-il?
Information intéressante et malicieuse à lire dans l'Opinion ce matin. Gabriel Attal a certainement lu l'interview accordée par Emmanuel Macron dans l'Humanité, le quotidien communiste, c'était le 19 février. Cette fois, c'est un sondage commandé par le journal communiste sur les marqueurs de gauche dans l'électorat français qui a retenu son attention. 65 45% des Français y considèrent que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Surtout, ce sentiment est partagé par 54% des électeurs de gauche. Le Premier ministre, qui veut réduire l'indemnisation du chômage, médite cette enquête, indique le journal L'Opinion. Pour lui, durcir les conditions faites aux chômeurs serait donc un moyen de remplir sa mission, qui est de valoriser le travail, sans mettre le feu à la France. On se rassure comme on peut.
Ceux qui ne sont pas rassurés, en revanche, ce sont les directeurs d'opéra et directrices, il y en a. Leurs recettes sont en berne.
C'est l'hebdomadaire Télérama qui consacre sa couverture à cette crise, car il faut bien l'appeler ainsi. Et on ne peut pas faire moins ici à Radio Classique que de s'en alarmer également. L'Opéra de Paris attire toujours autant, mais les 26 opéras régionaux ne se sont pas remis du Covid et subissent le contre-coup du désengagement continu des collectivités locales. Car l'équation économique de l'opéra est simple. Pendant que les subventions fondent, les coûts augmente. Le directeur de l'Opéra de Lorraine témoigne « Quand nous donnons une Traviata, la représentation coûte 85 000 euros et la recette n'excède pas 42 000. » L'Opéra, c'est donc comme le casino. Plus on joue, plus on perd. Il reste le mécénat qui se développe mais qui est surtout accaparé par l'Opéra de Paris et le Festival d'Aix-en-Provence. Confidence désabusée d'un directeur. Depuis 15 ans, nous optimisons les coûts mais on ne pourra plus continuer très longtemps. On peut, nous, se consoler en écoutant la Callas dans Tosca, Vici d'Arte, j'ai vécu pour l'art.
On l'écoute. J'ose à peine interrompre la Callas, mais je suis bien obligé. Merci Hervé Gattegnaud, on vous retrouve demain pour la lecture des journaux. Ça fera venir François-Olivier Gisbert, la Callas. Radio Classique.